Le titre de mon message ce matin, c'est « Soyons de vrais adorateurs ». Lorsque Jésus a rencontré la Samaritaine, il lui a dit « Le Père recherche de vrais adorateurs ». Et la semaine dernière, Joël nous a introduit, il a dit qu'après, il y avait une série sur Galate et il allait avoir une espèce de parenthèse à l'intérieur de laquelle il allait y avoir 4 prédications sur la marche chrétienne. Et il y avait différents sujets, l'adoration, prière, jeûne, etc. Donc, les 4 prochains dimanches, incluant celui-ci, ça va être des sujets sur la marche chrétienne. Et moi, j'ai choisi l'adoration. Il m'avait donné le choix. J'ai pris l'adoration. Elle me disait, j'avais à cœur de scruter ce domaine-là, l'adoration avec le Seigneur. C'est vraiment important dans la vie chrétienne. Je me suis dit, ça va me faire du bien. Ça va me motiver à fouiller davantage sur qu'est-ce que c'est l'adoration. Et j'ai commencé à étudier c'était quoi l'adoration, tout ça. Et plus j'étudiais, plus je m'apercevais que c'était grand, c'était vaste, puis que c'est ça la chose que Dieu demande le plus. Puis là, je me suis senti petit. Je me suis dit, je suis à la hauteur de prêcher sur l'adoration. C'est la chose que Dieu recherche le plus, être glorifié, adoré. Puis moi, je vais aller parler de ça, là, au nom de Dieu. Fait que ça m'a fait un peu peur, mais le Seigneur m'a dit, Yvan, c'est ça que tu as choisi, tu vas y aller. Puis, dans le fond, je n'ai pas de prétention de tout couvrir le sujet sur l'adoration. Il y a tellement de choses, il pourrait y avoir plusieurs prédications. Mais tout ce que je fais, c'est que je vous invite à venir avec moi dans mes réflexions. Et je veux vous montrer un peu certaines choses que le Seigneur m'a montrées à travers sa parole, à travers la lecture de certains livres sur l'adoration. On va parler, avant d'aller plus loin, de la différence entre la louange et l'adoration. Souvent, on emploie ces mots-là indistinctement. Ce matin, on peut dire on a eu un temps de louange ou on a eu un temps d'adoration. Est-ce que ce sont des synonymes, louange et adoration? Un synonyme, c'est deux mots qui s'écrivent différemment, mais qui ont le même sens. OK? Ce matin, est-ce qu'on a eu un temps de louange ou un temps d'adoration? Les deux, hein? On a eu les deux. Le chant de Carole était sur l'adoration beaucoup, et d'autres chants étaient sur l'adoration. Le dernier était sur l'adoration aussi, on a chanté. Donc, on fait les deux. Mais qu'est-ce qui est l'adoration, qu'est-ce qui est la louange? La distinction n'est pas vraiment archi-importante. Le principal, c'est de le faire. Okay? Pour un début de différence, on peut dire, est-ce que je peux louer un être humain? Dans le sens de la louange, de dire du bien de quelqu'un. Oui, ma femme le fait souvent avec moi. Elle me loue. OK? Donc, ça, c'est correct. Elle peut louer. Est-ce qu'elle peut m'adorer? Non. Elle peut dire « Je t'aime, je t'adore », mais c'est pas comme l'adoration qu'on porte à Dieu. Il y a seulement Dieu qu'on peut adorer. Vous voyez une petite différence ici, là. Donc, la louange, on peut l'adresser à un être humain, mais l'adoration, on peut pas l'adresser à un humain. C'est à Dieu seul. Donc, la louange, c'est louer Dieu pour ce qu'il a fait. L'adoration, louer Dieu pour ce qu'il est. C'est différent, ce qu'il est. Donc, on peut dire, on te loue Dieu pour la création, pour tout ce que tu as fait, et on t'adore pour ta puissance, ton intelligence, qui a fait que tu as fait tout ça. OK? Ça va comme ensemble. Le louer, on peut s'émerveiller devant ses œuvres, devant tout ce qu'il a fait. Et l'adorer, on s'émerveille devant sa beauté, sa puissance, sa sainteté, sa grandeur, sa magnificence. L'adorer, c'est exalter sa personne, ses attributs, ses perfections. Donc, être en extase pratiquement, là, la bouche bée là, devant tout ce qu'il est. Okay? Là, on l'adore. Okay? Et le louer, c'est pour ce qu'il a fait. Aussi, la louange, c'est l'expression de notre amour pour ce qu'il a fait. On l'aime parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a créés, etc. Et l'adoration, c'est l'expression de notre amour parce qu'il est amour. Le fait de réaliser qu'il est amour, il est rempli d'amour et que sa personne est amour, on l'adore pour cela. La louange, ça touche plus la célébration, un moment de joie devant Dieu. Lorsqu'on chante des cantiques, on exprime notre joie. Dans notre cœur aussi, lorsqu'on prie seul chez nous, on exprime notre joie à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il est capable de faire aussi. L'adoration, c'est un moment qui est plus intime avec Dieu. On s'approche de lui, on cherche sa présence. Attitude d'humilité, de soumission, d'obéissance et de don de soi. L'ultime adoration, c'est de lui donner notre vie. Et c'est pour ça que ça affecte la marche chrétienne. L'adoration, le don de notre vie, le sacrifice de notre vie sur l'autel, si on peut dire, et l'adoration. Le mot grec pour adoration, c'est proskuneo. Donc, c'est le mot qui est le plus souvent employé dans le Nouveau Testament. Ça vient de la racine de notre mot prosterné. Donc, l'adoration, c'est vraiment se courber devant lui, se prosterner en adoration. Nous, on le fait dans notre cœur, on ne le fait pas publiquement comme certains des musulmans vont faire, eux. Là. Donc, c'est vraiment de prosterner comme ça, comme les Juifs faisaient dans l'Ancien Testament. OK? Et la louange, bien souvent, nous conduit vers l'adoration. Tu sais, on le loue pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait. Ensuite, ne veut pas notre cœur et vient comme gonflé, enflammé, et on l'adore à cause de tout. On réalise parce qu'il a fait ce qu'il est. Okay? Mais comme je vous dis, la définition n'est pas... C'est bon d'en parler, mais ce n'est pas l'essentiel. L'important, c'est de le louer et de l'adorer. OK? Et l'adorer, c'est lui rendre ce qui lui revient. On va lire un texte dans Jean, chapitre 4, versets 20 à 24. C'est Jésus qui a rencontré une femme samaritaine. Jésus, habituellement, les Juifs faisaient le tour des villages samaritains. Lui, il a décidé de passer au travers. Et on se souvient de l'histoire. Jésus était sur le bord du puits avec une samaritaine. Jésus était fatigué. Il a demandé à boire. Et je cite seulement une partie de ce texte-là. On commence au verset 20. Ici, c'est la Samaritaine qui parle. Jésus venait de lui dire qu'elle avait 5 maris, puis celui qui était avec elle n'était pas son mari. Fait que là, elle essayait de lui tourner la conversation, on a parlé d'autres choses. Donc, verset 20. « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. » Donc, parce que les Samaritains, eux, croyaient uniquement aux 3 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, etc. Et pour eux, là-dedans, celui qui adorait, c'était Abraham. Et Abraham avait adoré à cet endroit-là, sur la montagne. Et vu qu'il ne croyait pas à la balance de l'Ancien Testament, donc il n'allait pas adorer Jérusalem, parce que c'est dans le reste de l'Ancien Testament que Dieu avait établi Jérusalem comme lieu d'adoration. Donc, pour ça, nous, les Samaritains, on adore ici, vous adorez à Jérusalem. C'est comme si on cherchait un sujet de discussion, là, ou la grosse différence entre les deux. Verset 21. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. » L'heure vient. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient de nouveau. OK? « Où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Donc, Jésus dit, l'importance, ce n'est pas l'endroit où on va adorer. C'est pour ça que c'est important. OK? Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc, Jésus lui dit que la vérité ou le salut vient des Juifs qui croient à tout l'Ancien Testament. Là. Verset 23. Mais l'heure vient. On a vu au verset 21, l'heure vient. Ici, rajoute encore. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Oh, un élément additionnel. L'heure vient, elle s'en vient, mais je te dis, elle est déjà là, l'heure. Donc, il parlait de lui qui était là pour nous racheter. Donc, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans la version Colombe, on a le verbe recherche, donc Dieu recherche. On voit que Dieu recherche de vrais adorateurs. OK? Et quand on cherche quelque chose, c'est parce qu'on en a besoin, on veut l'avoir. Mettons, je cherche quelque chose chez nous, parce que j'en ai besoin. Je ne suis pas content tant que je ne l'ai pas trouvé. Je le cherche. Et Dieu est constamment à la recherche de vrais adorateurs, de personnes qui vont l'adorer, pas juste du bout des lèvres, mais du plus profond de leur cœur. Donc, Dieu recherche des adorateurs. OK? Et la Samaritaine, elle pose la question, La différence entre eux, c'est que c'est l'endroit où on adore, soit sur la montagne, le mont Garizim ou à Jérusalem. Jésus dit, non, ce n'est pas ça la question. La question, c'est qui on va adorer, dire le Père, et comment on va adorer. Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'il dit, les vrais adorateurs, verset 23, adorent le Père. Donc, la réponse est là, il faut adorer le Père. Et par après, il va dire comment adorer, c'est-à-dire en esprit et en vérité. OK? Qu'est-ce que de vrais adorateurs? Ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs, s'il y en a des vrais. On peut adorer puis être faux. Non, mais ce n'est pas de la vraie adoration. Donc, c'est quoi la vraie adoration? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la publicité, je ne sais pas si ça marche encore, là. Molson salue les vrais. Hein, ça, avec une bouteille de bière, toi, t'as des vrais. La barre à moitié faite, puis les... nous autres, on est des vrais, des hommes, on prend un coup. Et moi, j'ai cru à ce mensonge-là, bien avant que la publicité arrive, là. Dans mon milieu de mon enfance, si on prenait un coup, on était un vrai. OK? Et sauf que, oui, je le faisais pour être accepté des autres, puis pour avoir du fun, puis on avait un guillemet du bon temps. Sauf que, il y a une petite voix qui me disait en dedans, il y a plus que ça, il y a plus que ça. Tu manques quelque chose, tu passes à côté. Ça travaillait. Ça a pris quelques années avant que le Seigneur fasse son œuvre, mais ça travaillait. Donc, les vrais, c'est pas les vrais aux yeux du monde, selon les valeurs du monde, mais c'est les vrais, ce sont les vrais aux yeux de Dieu. Et c'est ça que Dieu recherche, qu'il désire, c'est ça qui est important pour lui. Donc, Dieu cherche de vrais adorateurs. Qui on doit adorer? J'ai dit tout à l'heure qu'on doit adorer le Père. Jésus le reparle de ce commandement-là dans Matthieu, lorsqu'il parle au diable qui voulait le tenter. Le diable lui dit, « Je te donnerai toutes choses. Si tu te prosternes et m'adores, qu'est-ce que Jésus répondit? Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Donc, un seul qu'on doit adorer, c'est-à-dire le Père. Maintenant, comment adorer? Jésus dit, les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Adorer en esprit. Est-ce que c'est par le Saint-Esprit ou dans notre esprit? C'est quoi? Ici, le mot adorer en esprit, ça fait référence à notre intérieur, à notre esprit, à nous autres. Nous avons un esprit que Dieu nous a donné, donc c'est adorer dans notre cœur premièrement, en esprit. Dans la partie intérieure de notre personne par opposition à l'extérieur. Parce que les Juifs adoraient à l'extérieur, il y avait des sacrifices sanglants qui étaient offerts sur l'autel, le feu, et tout ça, les parfums, le culte était extérieur. Et Jésus dit maintenant, non, c'est plus extérieur maintenant, ça va être intérieur. Dans la version Bible Sommeur, la traduction est un peu différente, ça dit, adorons le Père par l'Esprit, mais avec un E majuscule, c'est-à-dire adorer par le Saint-Esprit. Les autres traductions, j'ai regardé, les autres versions, c'était en esprit par rapport à l'esprit humain. OK? De toute façon, lorsqu'on adore en esprit avec notre esprit humain, on a besoin du Saint-Esprit pour adorer, parce qu'on ne peut pas, avec notre esprit humain, vraiment adorer. Il faut que le Saint-Esprit soit là pour nous révéler les choses, la parole de Dieu, puis nous insuffler son esprit pour qu'on comprenne vraiment, qu'on puisse adorer Dieu dans toute... Je ne sais pas sa splendeur, mais le connaître vraiment de plus en plus tel qu'il est, c'est le Saint-Esprit qui nous le révèle. Donc, on adore en esprit, à l'intérieur de notre être, mais c'est sûr que si le Saint-Esprit est là, c'est avec par le Saint-Esprit aussi. Bon. Et même si on adore de l'extérieur, notre adoration est intérieure, ça nous amène à poser des actes extérieurs, qui sont le fait de lui donner notre vie changée, le fait qu'on va donner nos sous aussi, c'est un acte d'adoration qui prouve la transformation qu'il y a eu là-dedans, le fait que Dieu est le plus important, et c'est une façon de lui donner. Lorsque je donne ma vie, on va voir un petit peu plus loin dans Romains, c'est un sacrifice vivant qu'on lui offre. Jésus disait qu'on va adorer en esprit par rapport aussi aux Juifs qui adoraient du bout des lèvres. Il disait, en parlant des pharisiens, il disait, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Donc, Jésus reprochait aux pharisiens d'adorer avec leur bouche, mais que leur cœur n'était pas là. Okay? Et c'est, comme je disais, c'est Saint-Esprit qui nous rend capable d'adorer en esprit. C'est lui qui produit la vraie adoration. J'ai une citation ici de John MacArthur dans un livre en français, le titre, ça serait « La priorité ultime ». Ça, c'est sur l'adoration. Il dit « Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu poussant nos cœurs, motivant nos cœurs, nettoyant nos cœurs, enseignant nos cœurs, nous ne pouvons pas adorer Dieu parce que nous ne le connaissons pas. » Donc, la vraie adoration est réservée aux enfants de Dieu. Et si nous ne sommes pas nés de nouveau, on ne peut pas adorer vraiment. Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit dans nous qui réchauffe nos cœurs, qui nous enflamme, qui nous purifie. Okay? Donc, si on peut adorer, c'est un signe comme de quoi on le connaît. Vous êtes chrétien, et peut-être depuis un bout de temps, et vous avez la difficulté à adorer du plus profond de vos cœurs. C'est difficile. Est-ce que vous êtes normal? Êtes-vous normal? Pour la question. La réponse est oui. C'est oui. Parce qu'on a tous la difficulté à adorer. Ça vient pas de soi. C'est pas évident. Pourquoi notre cœur n'est pas toujours enflammé pour le Seigneur, porté à le louer pour ce qu'il a fait et à l'adorer pour ce qu'il est? Parce que l'adoration, c'est le trop-plein, le débordement de notre cœur qui est rempli par la connaissance de sa personne, il est renouvelé par son esprit, parce qu'on apprend sur lui, qu'est-ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Et tout ce que l'esprit nous révèle au sujet de Dieu, ça nous amène à le louer et à l'adorer. Et la difficulté, c'est que nos pensées ne sont pas suffisamment centrées sur la personne de Dieu. Et on a tellement d'autres choses qui nous préoccupent, qui nous occupent. Et dans notre civilisation, nous sommes la civilisation qui est le plus exposée à toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses, beaucoup plus que dans le temps de Jésus. Il y a tellement d'informations, une quantité illimitée d'informations. Sur Internet, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas avoir. Si vous trouvez une chose qu'il n'y a pas sur Internet, vous me direz. Tout là-dessus. Donc, il y a la télévision qui va prendre du temps, de l'énergie, de notre pensée. Les journaux, Internet, la publicité, sur le bord des routes, il y en a partout, partout, partout. Tu ouvres le journal, il y en a la moitié qui est de la publicité. Donc, il y a plein de choses qui alimentent notre esprit. Ce n'est pas toutes des choses mauvaises. Hein? Vous regardez les nouvelles, vous lisez le journal, c'est pas mauvais comme tel. Mais on est alimenté beaucoup par toutes sortes de choses, plus que toute autre civilisation avant nous. Donc, il y a une espèce de compétition entre le temps qu'on peut consacrer à lire la parole de Dieu, à méditer, et tout ce qui nous est à faire. Et des fois, on dit, j'aurais besoin de 3-4 vies pour faire tout ce qu'il y aurait à faire. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Même nos enfants, ils pourraient suivre un cours de piano, un cours de n'importe quoi. Il y a plein de possibilités. Dans mon jeune temps, il y en avait moins. On se faisait la patinoire nous-mêmes, puis on la grattait nous-mêmes, puis c'était plus compliqué. Donc, on avait moins de possibilités. Et dans le temps de Jésus aussi, il y en avait moins. Donc, mais ce n'est pas une excuse. Je n'ai pas dit que c'est une excuse, mais c'est un piège de toute l'information qu'on a, toutes les choses qu'on peut voir, qui nous sollicitent. On est sollicité parce qu'on veut aussi nous faire consommer. Il faut faire virer l'économie. Donc, on est sans sollicité et ça rend l'adoration plus difficile parce qu'on est moins centré sur la personne de Dieu. La solution, vous avez compris, c'est de prendre du temps seul avec Dieu. Et on a l'impression des fois de perdre du temps dans ce qu'on voit dans la prière. Parce que notre cerveau est tellement rempli de toutes sortes de choses qu'on vient pour prier, puis on a l'impression de perdre notre temps parce qu'on a de la misère à se concentrer. On n'est pas là, on est partout ailleurs. Okay? Et je pense que si on en prend plus régulièrement, ça va devenir plus facile. Et si on prend du temps pour la lecture de la parole de Dieu, méditation, lire un livre chrétien, de quelqu'un qui a été écrit qui va nous fortifier, méditer sur ce qu'on lit. Petit à petit, le Saint-Esprit va nous révéler des choses sur la personne de Dieu, va réchauffer nos cœurs. Mais c'est jamais acquis, ça. Vous pouvez être tout feu, tout flamme une journée, puis 2-3 jours après, oui, il me semble que... On a l'impression, quand on se rapproche du Seigneur, que c'est « Ah, enfin! » On dirait que ça ne tient pas. Il faut renouveler. Comme je chauffe au bois chez nous, il faut en mettre du bois dans le poêle. Mané, il chauffe, ça fait, c'est bon. Mais 3 heures après, là, tu le laisses faire, là, ça diminue. qu'on le veuille ou non. On doit donc renouveler cette communication avec Dieu. C'est pas, ça ne vient pas tout seul. Et quand on va dans sa présence, bon, on se dit, bien sûr, on ne sait pas quoi dire. Mais je pense que la première chose qu'il faut faire, et on le voit souvent dans la parole de Dieu, on commence avec des actions de grâce. Remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et quand il faut lui dire, montre-moi là ce que tu as fait pour moi, parce qu'on est tellement ingrat qu'on ne le réalise pas. On ne réalise pas que tous les membres, les doigts, les orteils qui nous donnent les yeux, on prend ça pour acquis. C'est juste quand ça ne va pas bien qu'on s'en rend compte. Donc, lui demander qu'il nous révèle toutes les choses qu'il nous donne et qu'on prend pour acquises. Et ça va mettre de la joie dans nos cœurs en voyant qu'il prend soin de nous et que c'est un Dieu qui est grand. Puis ensuite, lui confesser nos péchés, lui demander de nous les montrer parce qu'encore là, on ne les voit pas. Et Dieu aime cette prière-là. Là. Montre-moi tes bienfaits pour moi. Montre-moi mes péchés. Pensez-vous que Dieu va répondre à ça? Ben oui. Mais ce n'est pas 2 minutes après ou 2 secondes après. Il faut lui demander, insister. Puis le Seigneur va voir qu'on est vraiment sérieux puis il va se révéler à nous. Et par après, en lisant la parole de Dieu, le Seigneur va nous parler à travers certains versets, on va pouvoir le louer et l'adorer. Et à travers ça, on va s'humilier, réaliser nos péchés. Et l'adoration, l'humiliation fait partie de l'adoration, c'est la base. On reconnaît nos péchés, on reconnaît sa grandeur, sa sainteté, et on lui offre nos vies. L'acte ultime d'adoration, lui offrir notre vie en sacrifice. Donc, on a vu adorer en esprit. Dans notre être intérieur. Jésus a dit « en esprit et en vérité ». Ça prend les deux, ça prend une balance. Et comme je le disais tout à l'heure, les Samaritains croyaient seulement aux 5 premiers livres de l'Ancien Testament et ils rejetaient le reste. C'est ça que Jésus a fait dire « il faut adorer en vérité aussi, il faut être dans la vérité ». OK? Et on doit vraiment connaître Jésus-Christ pour être capable d'adorer dans la vérité. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas vraiment adorer. Et Dieu doit être au centre de la vraie adoration. Et l'adoration est toujours alimentée par la vérité que nous révèle la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui nous aide à la comprendre. Un auteur anglais ou d'Angleterre a écrit « Notre adoration est pauvre », c'est M. John Stott. Notre adoration est pauvre parce que notre connaissance de Dieu est pauvre. Ça va, tu vois. Plus on connaît Dieu, plus naturellement on va l'adorer. Plus ça va venir tout seul. OK? Et il y a 2 dangers qui nous guettent, personnellement, qui guettent l'Église. Ce sont les 2 extrêmes. Là. Nous, on est dans la vérité. On a la vérité doctrinale, mais l'adoration, c'est mort et froid. OK? Et certaines églises vont dire, nous, on est corrects, les autres ne sont pas corrects, on est très, très à cheval sur vraiment certains versets, certaines choses qui sont parfois secondaires. Et pour nous, on est corrects. Mais le cœur n'est pas touché par la parole de Dieu. De l'autre côté, on peut avoir un culte d'adoration qui est vivant, mais on n'est pas dans la vérité. On met les émotions en premier. On a des beaux chants, mais Jésus n'est pas le centre. La semaine dernière, on a chanté avec François, Jésus soit le centre. J'aimais ça parce que Jésus doit être le centre de notre adoration. Le danger s'applique aussi au niveau personnel. Je peux dire, moi, je suis un vieux chrétien, je connais la vérité, je sais comment reprendre les autres, mais mon cœur est froid. Okay? Je ne peux pas, j'ai de la misère à m'émerveiller devant tout ce que Dieu est. C'est comme froid en dedans. La vérité ne me touche plus. Après quelques années de chrétien. Au début, il me semble que ça venait tout seul. Il y avait. Ça bouillait. Maintenant, je ne peux plus m'émerveiller. Donc, vérité doctrinale, oui, mais il n'y a plus de. L'esprit n'est plus là pour me remplir. Aussi, le contraire, je peux être très enthousiaste et émotif, mais ma joie n'est pas basée sur vraiment la vérité. Elle est basée sur. C'est peut-être une musique qui va m'avoir réveillé ou n'importe quoi. Mais je suis pour la musique. La musique est là pour accompagner vraiment nos cœurs dans la louange et l'adoration. Donc, Jésus-Christ doit être le centre. On raconte une histoire d'un bébé qui est né, bien sûr. Et on a fait une fête pour le bébé. Et il y avait plein de monde, puis là, la fête, puis on parlait. Ah oui, le bébé, comment c'était l'accouchement, tout ça, puis ça parle. Puis là, le monde parlait de tout, n'importe quoi, c'est une grande famille. Maintenant, on dit, puis il a fait quand? Il est où ton bébé? C'est vrai, en fait, ton bébé, il est où le bébé? Ah, je l'ai mis sur le lit. Je l'ai mis sur le lit, OK, on va aller voir. Mais dans ce temps-là, il y a eu les garde-robes n'étaient pas grands, ça fait que les gens mettaient tous les manteaux sur le lit. Vous avez déjà vu ça chez vos grands-parents, là, ils mettaient pas comme ça. Ça me semble que c'était haut comme ça, parce qu'on n'était pas grand. Le problème, c'est que le bébé, la mère l'avait mis sur le lit, mais tout le monde ne l'avait pas vu, puis il avait mis le manteau par-dessus. Malheureusement, le bébé avait été étouffé. Là. Et c'est une triste histoire vraie. Et tout ça pour nous rappeler que il était le centre de la fête. Il aurait dû être le centre, il aurait dû l'avoir d'un bras, mais ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié. Trop longtemps, puis il est mort. S'il l'avait, ça en était rappelé tout de suite, peut-être après 5 minutes, 10 minutes, mais là, il y a des, je ne sais pas combien de temps, dessous des manteaux, puis le bébé est mort étouffé. Donc, est-ce que Jésus, on le laisse sur le lit, le premier manteau par-dessus, ou il est vraiment dans notre cœur, lorsqu'on vient ici pour le louer et l'adorer? La meilleure façon, je crois, de comprendre l'adoration, c'est de regarder des exemples. Si vous voulez, on va regarder dans le psaume 95. Psaume 95. Ouais. Psaume 95, on commence au verset 1. Ça commence par « venez ». « Venez », c'est une invitation. On a d'autres verbes aussi que c'est « allons ». « Venez », donc ici, le psalmiste nous invite. OK, une invitation. « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Pourquoi est-ce qu'il se réjouissent ici? Des cris de joie vers le rocher de notre salut. Bon, c'est parce que c'est leur salut, c'est celui qui les a sauvés, qui est l'Éternel, qui les a sauvés. Donc, ils se réjouissent parce qu'ils sont sauvés. Et le rocher de notre salut, donc, Sur la terre, il y a quelque chose de plus solide qu'un rocher. Hein? Quand on fait référence à un rocher, c'est du roc. Okay? Donc, notre salut, leur salut, est sur un rocher, donc c'est solide. Ce n'est pas un salut à peu près. Hein? C'est un salut solide. C'est du roc. Donc, pour cette raison-là, ils poussent des cris de joie. Ils sont vraiment heureux. Et qui a dit que c'était plate de s'approcher de Dieu? Elle poussait des cris de joie. On n'est pas comme ça, nous autres, on crie. C'est comme quelqu'un qui voit une game de hockey, puis il a un but, là, il se lève debout, il crie de joie. T'sais. Moi, je ne suis pas extraverti, là, mais c'était comme ça, là, il criait, là, criait. Tellement il était content. Puis c'est normal, tellement il était content. Donc, c'est une louange. Ici, on est au niveau encore de la louange. Pour qu'est-ce que Dieu a fait, on pousse des cris de joie. Qui a dit que c'était plate de s'approcher de Dieu? Hein? Verset 2, « Allons, encore une invitation. Allons devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, encore là, des cantiques en son honneur. Et on peut aller au-devant de lui, on peut, malgré toute sa grandeur, malgré tout ce qu'il est, il nous invite à aller, à s'approcher de lui. On pourrait dire, oh, je ne suis pas indigne, je ne suis pas digne. Non, il nous invite à s'approcher de lui. Allons au-devant de lui. Verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Donc, il n'y a pas personne de plus grand que lui. Donc, ici, là, il adore pour sa grandeur. Verset 4. Il tient dans sa main la profondeur de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Donc, ici, il loue pour toute sa puissance, qu'est-ce qu'il peut faire. Et les profondeurs de la terre, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus creux sur la terre. Et le sommet des montagnes, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus haut. Donc, on ne peut pas aller ni plus haut ni plus bas que ça. Tout ça est à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Juste un petit exemple. Je voyais sur Internet cette semaine, en checkant Météo Média, il y avait une photo d'un pic-bois. Puis j'ai agrandi la photo. Je voyais tout le dessus de la tête rouge, un rouge bien défini. Puis là, je me disais, ah, c'est arrivé par hasard, ça, c'est drôle. Comment on peut croire que c'est tout fait par hasard, toute la beauté de Dieu? Puis le pic-bois, le fait qu'il puisse piquer comme ça dans l'arbre, tac, 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 il y a un cerveau qui est vraiment solide, qui est fait pour ça. Dieu est intelligent. Dieu pense à tout dans tous les détails, Puis, donc, on peut l'admirer dans toute sa création, dans tout ce qu'il est. Ça nous dépasse. OK? Verset 6, venez. On voit au verset 1, on avait venez. Verset 6, on a venez. Prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Verset 1 à 5, c'est pas mal. Là, il reconnaît qui Dieu est. Et rendu au verset 6, il n'est plus capable. On se prosterne et on adore. On arrête les cantiques. On n'est plus capable. Il n'est plus capable de parler quasiment. Venez, prosternons-nous, humilions-nous devant un Dieu aussi grand. Et c'est souvent comme ça. Il y a comme un ordre qui revient souvent. On reconnaît qui est Dieu, et quand on reconnaît qui est Dieu, automatiquement, naturellement, l'adoration vient toute seule. Et quand Jésus parlait de vrais adorateurs, c'est une adoration qui est stimulée par tout ce qu'on sait au sujet de Dieu. Et là, quand on voit tout ça, on tombe pratiquement face contre terre pour l'adorer, pour dire, hey, on n'a plus de mots. Donc, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. On va arrêter ici pour le psaume 95, mais c'était pour vous montrer la joie qu'il y a à se rapprocher de Dieu et que cette louange-là nous amène à l'adoration, à se prosterner devant lui. Et c'est pas difficile de l'adorer. Tantôt, j'ai dit, on était normal d'avoir de la difficulté à adorer, c'était normal, parce qu'on est loin de Dieu, malheureusement. Même si on est des enfants de Dieu, on a de la misère à toujours être près de Dieu. Mais plus on est près de Dieu, plus ça devient difficile de ne pas adorer. Hein? Parce que ça se fait naturellement, ça coule naturellement dans notre cœur, l'adoration, quand on se rapproche de Dieu. Et on a vu que la joie de la louange est transformée en révérence. Révérence devant Dieu, respect, c'est humilier devant la grandeur de Dieu. Et la joie ici est une joie qui est durable, qui n'est pas passagère. Et vu que ça vient naturellement, les adorateurs, les vrais adorateurs n'adorent pas par obligation. Donc, on n'a pas dit, Dieu nous demande de l'adorer, donc, faut que je l'adore. Bon, Dieu, je t'adore. Bon. Ça ne marche pas. Dieu, il veut notre cœur. Supposément, votre femme vous dit, « Chérie, est-ce que tu m'aimes? » Dans la parole de Dieu, Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » J'ai pas le choix, mon amour. Faut que je t'aime. Si je t'aime pas, je suis dans le péché. Pensez-vous que votre femme va se sentir aimée? Chérie, elle va vous sauter au cou, moi aussi je t'aime. Si elle vous saute au cou, c'est peut-être pour vous étouffer. J'ai fait le test avec Marjolaine. Vous connaissez Marjolaine? Ça fait que ça n'a pas été concluant non plus. Ça n'a pas peu de réponse en retour. Je pensais que ce serait. Non. Donc, si on aime notre femme, ça vient du fond du cœur, c'est pas par obligation. Okay? Si on n'est pas capable, on a de la misère à l'aimer, disons, Seigneur, rends-moi capable de l'aimer. Et le Seigneur va créer cet amour dans nos cœurs, un amour réel. Le Seigneur est capable de le faire. J'aimerais ici insister sur un des attributs de Dieu, qui est pour moi le principal, c'est sa sainteté. Sainteté est... C'est souvent devant sa sainteté que, dans les Écritures, on voit que Jésus a été, ou l'Éternel, a été adoré. C'est ça qui le caractérise le plus. On va aller dans Apocalypse, dans le livre de la Bible, chapitre 4, verset 8. Et l'Apocalypse, ce n'est pas un livre de science-fiction, c'est un livre de réalité, même si on ne comprend pas exactement tout, mais c'est vraiment des choses qui vont se produire et qui se produisent actuellement dans le ciel. Donc, Apocalypse, chapitre 4, verset 8. Apocalypse 4, 8. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, donc c'est comme une espèce de chérubin ou d'ange qui ont six ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et en dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Saint, 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 seulement cet attribut-là de Dieu qui est répété trois fois. Et on parle ailleurs du Dieu trois fois saint. Donc, c'est un attribut qui est vraiment important. On ne dit pas « éternel, éternel, éternel »,« Seigneur, Seigneur, Seigneur » ou « puissant, puissant, puissant ». Mais « saint, saint, saint », c'est ça qui le caractérise, sa sainteté. C'est pour ça qu'elle est répétée trois fois ici. Verset 9. « Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur, action de grâce, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Donc ici, on voit « ils lui rendent la gloire ». OK, et honneur. Donc, ils savent qui il est vraiment. Qu'est-ce que ça produit? Verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et on voit que devant la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'ils font les êtres vivants, les vieillards? Ils se prosternent et ils adorent. C'est la réaction normale lorsqu'on on réalise la grandeur de Dieu, toute sa gloire. Prosternent et adorent. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils jettent leur couronne. Ils donnent. C'est comme si ces trois choses-là qui vont ensemble, on reconnaît qui Dieu est, on prosterne, on adore et on donne. Comme dans notre cas, nous, on donne notre vie. Eux ont donné leur couronne, leur gloire, et on dit, on n'est pas digne de ça, c'est tout à toi, Dieu. Ça va ensemble, ces trois choses-là, c'est inséparable. OK? Donc, sa sainteté, c'est son infinie perfection. Dieu ne fait jamais rien de mauvais. Dieu n'a jamais de mauvais jugement. Dieu ne pèse jamais. Il est complètement pur et juste. On va regarder un autre exemple qui ressemble à celui-là, dans Ésaïe. Ésaïe, c'est à peu près au milieu de la Bible, vous avez Psaume, Proverbe, ensuite Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, et Ésaïe. Le chapitre 6. Et on a un texte qui ressemble à celui qu'on vient de lire dans l'Apocalypse. Donc, Ésaïe, chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. On avait ça tantôt dans l'Apocalypse. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins. Ici, des séraphins, c'est pas... Séraphin poudrier là, dans une belle histoire d'un pays d'en haut. Là. Ça peut être des chérubins ou des anges, OK, des séraphins. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, comme on a vu tout à l'heure en Apocalypse. Deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Pourquoi est-ce qu'ils se cachaient la face puis les pieds? Puis ils avaient juste deux ailes pour voler. Ce que j'ai lu dans un commentaire, c'était que il se cachait la face parce qu'il ne pouvait pas contempler directement la gloire de Dieu. À cause de toute la gloire qu'il voyait, il se cachait la face. Et aussi, avec deux autres ailes, il se cachait les pieds. Ça montrait leur indignité. Malgré qu'ils étaient au service de Dieu, ils se considéraient comme étant indignes. Donc, ils se cachaient les pieds de le servir. Et les deux autres ailes pour voler, mais là, malgré leur indignité, ils servaient. Ils servaient, puis ils disaient « Saint, Saint, Saint ». Donc, c'était ça, pour ça qu'ils ont dit. Trois paires d'ailes. Verset 3. Il criait. Donc, ce n'est pas juste des petits soufflements. Il criait ici, l'un à l'autre. Il disait, Saint, Saint, Saint. Encore là, ici, trois fois saint, comme on a vu dans l'Apocalypse. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Donc, ici, il manifeste encore la gloire de Dieu qui est manifestée à cause de sa sainteté. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Isaïe, c'est peut-être la personne qui était la meilleure en Israël, c'est un prophète, OK? Et juste le fait qu'il voit Dieu, Dieu ne lui a pas dit, « Hey, Isaïe, t'es impur, t'es pécheur. » Juste le fait de voir la gloire de Dieu, il s'est vu, ou la sainteté de Dieu aussi, il s'est vu comme impur face à ça. Dieu n'a pas eu besoin de lui dire. Et nous, je crois, lorsqu'on réalise la sainteté de Dieu, on voit nos péchés en même temps. On voit notre impureté. OK? Donc, sa réaction, « Je suis impur. » Et la mauvaise nouvelle, « Je suis perdu. » Parce que vu qu'il se sentait impur, ça coupait l'accès avec Dieu. Il ne pouvait pas y aller en étant impur. Il est séparé de Dieu, impur, séparé de Dieu. Je suis perdu, je suis fait. La colère de Dieu va être sur moi. Dieu n'avait rien dit. Il s'était juste révélé pour qu'il le voie. Réaction naturelle, je suis impur. Donc, il s'est humilié, il a reconnu son péché. Et on voit un petit peu plus loin que Dieu est venu à son secours. Il y a un chérubin qui a pris une braise sur l'autel. Il a touché ses lèvres pour montrer. Il disait, tes lèvres sont purifiées maintenant. À cause du sacrifice sur l'autel, c'est purifié. Et il est devenu pur. Et donc, il a réalisé la gloire de Dieu, sa grandeur, sa sainteté. Il s'est humilié, il a adoré. Et comme on a vu tantôt, les séraphins ont jeté leur couronne. Lui, il s'est offert lui-même. Parce qu'un peu plus loin, Dieu veut envoyer quelqu'un pour parler au peuple. Isaïe a dit, « Me voici, envoie-moi. » Réaction naturelle, parce qu'on adore, on est un vrai adorateur, on se donne nous-mêmes, on donne. « Me voici, envoie-moi. » Une citation ici de John MacArthur, dans le livre où j'ai parlé tout à l'heure. « Quand nous voyons Dieu comme saint, notre réaction instantanée est de se voir comme impur. » Il y a un grand fossé entre la sainteté de Dieu et l'impureté de l'homme. Tant qu'un homme ne comprend pas la sainteté de Dieu, il ne peut jamais connaître la profondeur de son propre péché. Plus on connaît Dieu tel qu'il est, plus on réalise comment on est. Nous sommes nécessairement secoués jusqu'à la racine de notre être, de tout notre être, quand nous nous voyons en comparaison de Dieu. Si nous ne sommes pas profondément affligés à cause de notre péché, nous ne comprenons pas la sainteté de Dieu. Sans une telle vision de la sainteté de Dieu, la vraie adoration n'est pas possible. Donc, de vrais adorateurs doivent réaliser la sainteté de Dieu. Dans le psaume 51, on ne tournera pas, le psalmiste nous dit, « Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement je t'en donnerais. Tu n'agrées pas d'holocauste. » Puis on était à ce moment-là dans l'Ancien Testament. Les sacrifices agréables à Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Dieu, tu ne le dédaignes pas. Donc, Dieu ne dédaigne pas lorsqu'on vient humilier devant lui, on reconnaît sa grandeur. Il ne dédaigne pas ça. Avant d'accepter le Seigneur comme mon sauveur, moi, j'avais la tête dure, très, très dure. Et lorsqu'on me disait que Jésus pouvait me sauver, je trouvais ça trop simple. Parce que dans ma religion du passé, on m'avait parlé de Jésus, puis Jésus, c'était le petit Jésus. C'était pas lui qui pouvait me sauver, j'avais tout rejeté ça. Et maintenant, on revenait avec ce Jésus-là encore, pas encore. Et même si la Bible disait que Jésus pouvait me sauver, c'était trop simple. Par contre, je voulais être sauvé. Je voulais pas Jésus, mais je voulais être sauvé. Ça fait que je priais, dans mon cœur même, je criais à Dieu, « Dieu, révèle-toi. Je sais que tu m'as créé, tu m'as mis là, tu ne peux pas me laisser de même. Montre-moi ce qu'il y a de l'autre côté, je veux le savoir. » Pendant plusieurs mois, c'était ma prière ou mon cri à lui. Et à un moment donné, je crois que le Saint-Esprit travaillait en moi, c'est comme si j'ai vu combien Dieu était saint, combien il était pur. Il m'a montré sa sainteté. Et en voyant ça, j'ai fait un peu comme Ésaïe, bien, exactement comme Ésaïe, je me suis senti « Garde-moi! » Je n'étais pas un bandit, là, j'étudiais, puis tout ça, puis bon, j'avais un avenir, puis je n'étais pas un ange non plus, mais Je ne méritais pas l'enfer pour ça, je pensais. Mais en voyant la sainteté de Dieu, ou plutôt en la réalisant, parce que j'ai pas une vision, moi, là, non. Mais en réalisant dans mon cœur comment Dieu était saint, et c'est Saint-Esprit qui m'a révélé ça, je suis certain, tout de suite, je me suis vu comme impur, pécheur, et malheureux. Je me suis dit, aïe! Comment ça se fait que tu m'as créé, puis je suis comme ça, je ne pourrais jamais te rejoindre. C'est comme si je voyais une vallée entre moi et lui, là, infranchissable, que moi, je suis tout sale, impur, lui est tout propre, tout saint, impossible. Mais je dis, tu m'as créé, tu m'as mis là, puis là, je vais mourir, puis c'est fini. J'ai dit, Dieu, il doit bien avoir une solution. J'étais pas loin, hein. J'étais pas loin, mais je voulais rien savoir de Jésus. Mais ça a pris ça, puis j'ai été trois nuits sans dormir. Parce que là, je me voyais vraiment perdu. Puis je voyais pas de solution. Mais je continuais à lire ma Bible. Le Seigneur m'a dit, lis ta Bible, puis oublie ta religion. Fais comme si tu n'avais rien entendu dans le passé, lis la Bible. Et là, je lisais sur Jésus, sur qui il était, sur la façon dont il pouvait me sauver, sur le fait qu'il était mort à la croix pour mes péchés, qu'il avait été maudit aux yeux de Dieu, par Dieu, il a subi sa colère à ma place pour mon péché. Et graduellement, j'ai fini par comprendre que vraiment, le Jésus de la Bible était Dieu lui-même à qui je parlais. Je disais, révèle-toi, c'était lui qui était venu sur la terre. Oh, c'était plus pareil. Et là, ça n'a pas pris de temps, j'ai dit, oui, viens me sauver. Je te donne ma vie. Je te donne mon impureté, mets ça à la croix, te payer pour ça. Et je veux ressusciter en toi une nouveauté de vie comme tu es ressuscité 3 jours après. Et c'était merveilleux. Et donc, comme Ésaïe, Seigneur a enlevé son impureté, pour moi, Seigneur a enlevé mon impureté, il m'a sauvé. Donc, le fait de réaliser sa sainteté nous pousse à l'adorer. Dans le psaume 111, on lit, « Son nom est saint et redoutable. » Oh, pourquoi ils mettent ces deux mots-là ensemble? On a chanté tout à l'heure son nom. Son nom, c'est, dans la Bible souvent, dans l'Ancien Testament surtout, son nom, c'est sa personne. Donc, sa personne est sainte et redoutable. Pourquoi il y a les deux en même temps? Sa sainteté le rend redoutable parce qu'il ne peut pas tolérer le péché. Et on lit dans Hébreux chapitre 12, vous connaissez ce verset-là, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le Dieu qui nous sauve, le Dieu plein d'amour, qui est mort sur la croix pour nous, est aussi un feu dévorant. On oublie cet aspect-là de Dieu. Et ce feu dévorant-là, c'est sa sainte réaction au péché, à cause de sa sainteté. OK? Et Dieu a dû, pour nous sauver, a dû punir le péché, il doit punir le péché. Et on sait qu'il est venu, il a envoyé son Fils à la croix, qui est Dieu lui-même, pour porter ce péché-là, porter notre impureté à notre place, pour nous purifier, afin qu'on puisse aller en sa présence. Donc Dieu ne nous condamne plus pour nos péchés parce que Jésus-Christ a pris la condamnation à notre place. Mais ça, ça lui a coûté cher. C'était Dieu. Et depuis la création du monde, depuis que l'homme a péché, que Jésus sait qu'il va mourir qu'il venait mourir sur la croix. Et nous, on n'a pas la colère de Dieu, on bénéficie de son amour à cause que Jésus a payé à ma place. Et ça, ça devrait nous faire trembler. Qu'on l'a échappé belle. Puis on n'y est pour rien. Donc, sujet d'action de grâce à Dieu pour ce salut, le rocher, comme on voyait dans le psaume 95, le rocher de mon salut. Un autre exemple d'adoration, on ne tournera pas, mais c'est Marie, la sœur de Lazare, qui venait de voir quelques jours avant Jésus ressusciter Lazare, Dieu montrer qu'il était vraiment Dieu. Et Marie, là, il y avait une petite fête chez Lazare, Marie est arrivée avec un vase de parfum, de grand prix, qui coûtait approximativement 1 an de salaire. Elle a mis le parfum sous les pieds de Jésus, elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Et donc, c'est encore là un acte d'adoration. Marie a reconnu que Jésus était. Marie s'est humiliée, parce que pour essuyer les pieds avec ses cheveux, pour une femme, c'était quelque chose, parce que on voit dans l'Épître aux Corinthiens, première épître, je crois que les cheveux de la femme, c'est sa gloire. Donc, à l'époque, les cheveux, c'était sa gloire. Et elle essuyait les pieds. Il était sale, malheureusement, il était sale. Les pieds sales avec sa gloire. Donc, c'est vraiment humilié que les pieds de Jésus, même s'ils étaient sales, c'était les pieds du Créateur. Donc, elle le savait. Et encore là, reconnu que Jésus était, s'est humilié et l'a donné beaucoup. Donner quelque chose, un an de salaire, c'est quelque chose de ramasser ça. Ça l'a poussé à donner. Aussi, un autre exemple des mages. Les mages, lorsqu'ils ont trouvé Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés devant lui. Pas devant Marie. Ils sont prosternés devant l'enfant. C'est quelque chose de réaliser ça. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? Ils ont ouvert leur trésor, leur ont donné de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Donc, l'adoration pousse toujours, c'est la continuité de l'adoration, en fait, compte, de donner notre vie, nos biens, des choses-là. C'est pour ça, lorsqu'on donne au Seigneur nos sous, c'est l'adoration. Qu'est-ce qu'il y en est pour vous, pour moi, devant tout ce qu'on voit sur la sainteté de Dieu, sur le fait qu'on doit l'adorer naturellement, le fait qu'il mérite toute notre adoration? Qu'est-ce que ça change dans nos cœurs? Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice d'animaux, qui est l'adoration. Aujourd'hui, c'est l'acte d'adoration, c'est d'offrir notre vie, lui offrir notre vie. Et on va regarder deux derniers versets dans Romains chapitre 11. Et l'Épître aux Romains, de cet épître-là, Paul parle de la grandeur de Dieu, de son œuvre, de l'intelligence de Dieu. Paul n'en revient pas comment Dieu est grand, comment Dieu a pu penser à notre salut, comment Dieu s'est révélé. Et on va commencer, chapitre 11, verset 36. C'est le dernier verset du chapitre 11, avant de lire le verset suivant. Donc, verset 36, « Car c'est de lui, par lui et pour lui. » Il y a combien de lui là-dedans? « De lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses à lui. » Donc, vraiment, Paul, il n'en démarre pas, là, il est centré sur Dieu, hein? C'est toujours lui. Donc, « À lui, quoi? La gloire dans tous les siècles. Amen. » Donc, ça, c'était juste la fin, là. Je vous donne juste la cerise sur le Sunday de tout ce qu'il y avait avant, parce qu'on n'a pas le temps de tout regarder. Mais tout ce que Paul venait de dire sur Dieu, il s'exclame, là, tout est à lui, de lui, pour lui, à lui, toute la gloire. OK? Maintenant, ça s'applique à nous, verset 12. Je vous exhorte donc. Il y a un donc ici. Donc, le donc fait référence à ce qu'il y avait avant, à cause de toute la grandeur de Dieu, sa sainteté. Je vous exhorte donc, frères. Donc ici, il parle à des gens qui sont nés de nouveau. Okay? Frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint. Oh, saint! Nous aussi, on est saints. Donc ça m'encourage, après avoir vu toute la sainteté de Dieu, on voit qu'il nous a rendus saints, parce qu'il parle à des frères ici. Okay? Donc un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, dans l'Ancien Testament, on adorait en mettant des victimes, des animaux sur l'autel. Ici, le sacrifice dont Paul parle, c'est notre vie, offrir notre vie à Dieu en sacrifice vivant. Donc, ce n'est pas un sacrifice, un animal mort, là, un sacrifice vivant. Puis ça, c'est agréable à Dieu parce que Dieu cherche de vrais adorateurs. Et le fait de marcher pour Dieu à chaque jour, le fait de lui consacrer notre vie, c'est un acte d'adoration. C'est l'adoration qu'on peut lui rendre. Et ça s'adresse à des frères. Donc, encore ici, la même chose, on reconnaît qui Dieu est, on l'adore, et notre acte d'adoration nous pousse à lui donner notre vie, qui est aussi de l'adoration, lui offrir notre vie. Et on ne peut pas l'adorer si on vit de façon égoïste, charnelle, centrée sur nous. C'est impossible. La véritable adoration est produite par une vie consacrée à Dieu et un cœur qui bouille pour lui. Le psalmiste, il disait, « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. » C'est pas froid, ça, hein? C'est pas froid, hein? Des paroles pleines de charme, qui sont belles, bouillonnent dans mon cœur. Le psalmiste ne pouvait pas se retenir. Est-ce que dans mon cœur, ça bouille? Ça bouille pour Dieu. Qu'est-ce que vous venez d'apprendre sur la sainteté de Dieu? Est-ce que ça vous a fait du bien? Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, les lectures que j'ai faites, tout ça, puis la recherche sur la sainteté de Dieu. J'ai été impressionné, j'ai été fortifié. Alors, est-ce que votre cœur brûle davantage pour Dieu? Est-ce que vous avez plus le goût naturellement de l'adorer? Tant mieux, c'est ça ma prière pour vous. Mais je vous invite à lui offrir votre vie en sacrifice vivant. On a chanté un cantique, le dernier qu'on a chanté tout à l'heure, on me l'a rechanté, il s'en vient, « Hommage à mon roi ». Les paroles sont très, très fortes. « Je suis émerveillé devant ta sainteté. » Ça va en plein dans ce qu'on vient de parler. « Émerveillé devant ta sainteté. » Je viens me prosterner, je viens adorer, je viens me prosterner, indigne de m'approcher. Donc, réaliser la grandeur, la sainteté de Dieu, l'adorer, malgré notre indignité. Et si on pourrait même se prosterner face contre terre à cause de notre indignité, mais le Seigneur nous rend dignes à cause de Jésus-Christ. Mais on demeure indigne quand même par nous-mêmes. Est-ce que il peut y avoir quelqu'un ici qui s'est éloigné de Dieu. Parce que, sans s'en rendre compte, à cause, comme je disais tout à l'heure, toutes les choses qui nous préoccupent. Et on ne peut pas vraiment adorer si on court tout le temps. Et on dirait que le diable veut nous faire courir, tout le temps plein de choses à faire, parce qu'il y en a plein de choses à faire, on veut tout faire. Donc, sans s'en rendre compte, on s'éloigne de Dieu, la flamme n'est plus là, on a de la misère à adorer Dieu, c'est juste dans notre tête. Si c'est votre cas, je vous invite à vous humilier devant lui, lui demander pardon. Reconnaître que vous ne le cherchez pas de tout votre cœur. Et lui demander, « Dieu, je veux te chercher de tout mon cœur. Je veux que tu sois ma priorité, la priorité ultime dans ma vie. Je veux revenir à toi. Je t'offre ma vie. » Fait que pendant que l'équipe d'adoration va avancer, on va avoir un mot de prière. Notre Père, on veut vraiment te remercier pour ta parole. Merci d'avoir rafraîchi nos âmes, nos cœurs, par toute sévérité sur ta sainteté, sur l'adoration. Merci de toucher nos cœurs, Seigneur, par ta grandeur, ta sainteté. Et notre Dieu, le moins qu'on puisse faire, qu'est-ce qui est un sacrifice agréable, qu'est-ce qui est suffisant et raisonnable, c'est de t'offrir nos vies, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons le faire avec joie. Et Seigneur, nous le faisons avec joie, et plus nous te donnons, plus nous te remettons ce qui t'appartient, plus nous sommes heureux, plus nous sommes en paix. Et Seigneur, nous anticipons ton retour, quelle joie ce sera encore plus intense d'être avec toi pour l'éternité. Et Seigneur, dans cette semaine qui s'en vient, apprends-nous à avoir les yeux sur toi, sois le centre de nos vies. Et on le prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.